comment bien prendre soin de sa batterie, quels sont les bons réflexes à acquérir pour que les recharges répétées ne raccourcissent pas un peu trop vite sa vie, quels sont les risques, quel mode de recharge faut-il privilégier, avec ou sans fil, quelles technologies vont émerger demain, tout, vous serez tout sur les batteries.
Le Mac.
Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM, très heureux de vous retrouver pour notre débat high-tech hebdomadaire. Je vous rappelle qu'On refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site www.onrefaitlemac.com, mais également sur notre app iOS ORLM pour iPhone, iPad et Apple TV. Vous retrouvez également On refait le Mac sur YouTube, Dailymotion et iTunes, sans oublier podcast. Enfin, vous disposez d'une version audio sur iTunes, podcast, mais également sur Spotify, Deezer et TuneIn. Avec comme chroniqueur cette semaine en plateau pour nous parler de batteries, un spécialiste de l'univers des batteries, le directeur IMEA Business Incubation de Schneider Electric, Sylvain Penaud. Bonjour Sylvain.
Bonjour Olivier.
Alors il faut que tu nous présentes un petit peu Schneider Electric. C'est l'un des plus anciens groupes industriels français, mais également un des leaders mondiaux de la distribution et des automatismes électriques, c'est bien ça?
C'est bien ça, et je dirais aussi un acteur de la transformation numérique de ce domaine de l'énergie dont on va parler aujourd'hui.
Voilà, et il y a beaucoup de recherches, tu incubes énormément de startups autour des problématiques, pas seulement de la batterie, mais c'est un élément vital dans la distribution de l'énergie. Demain, on en parlera
tout à fait.
Enfin d'émission. En plateau également, Laurent Pantanage d'Xbrain. Bonjour Laurent.
Bonjour Olivier, on refait le Mac.
Il va y avoir aussi beaucoup d'intelligence artificielle pour optimiser et savoir aussi mieux utiliser les batteries, Laurent, c'est ça l'enjeu?
Ouais. Et j'ai une petite surprise sur le comportemental.
Très bien. Et enfin, en duplex depuis Ionis X, monsieur Stéphane Zibi. Bonjour, bonjour Stéphane.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Content de revenir après quelques émissions.
Voilà, après quelques semaines de vacances où il a beaucoup travaillé.
Non, non mais pareil, non, je ne suis pas. Non, vous tuez ma tête. Est-ce que je reviens de vacances?
Si, oui, je te trouve très, très hallé. Ionisix, en quelques mots, Stéphane?
Je suis ravi d'en reparler. Ionisix, c'est une école du groupe Ionis. On connaît les écoles du groupe Ionis à travers certaines marques ou certaines écoles comme Epita, Epitech, l'IEG, l'ISEG, l'ICEFAC. La petite dernière d'ailleurs s'appelle XP, qui fait du gaming et de l'e-sport. Donc on peut apprendre à faire des études autour de cela. C'est vraiment très intéressant. Et nous, on est la plateforme en ligne. Un peu différente des autres parce qu'on fait aussi beaucoup de diplômes reconnus d'État. Voilà.
Passionnant. Merci Stéphane. On enchaîne tout de suite avec le sondage de la semaine. Le sondage de la semaine, recharge, quels sont les bons usages? C'est la question qu'on vous a posée cette semaine sur le compte Twitter dont on fait le Mac, et vous étiez 8% à répondre lorsqu'elle est à zéro, 37% une fois en mode réserve, je charge à 50%, vous étiez 18% à répondre, et enfin dernière réponse, le plus souvent possible, 38%, ce qui amène une réaction de Fontagneux sur le compte Twitter dont on fait le Mac. Il manque juste toutes les nuits, quelle que soit la charge. Effectivement, on a beaucoup hésité à le mettre, mais c'est vrai, c'est mon cas. Tous les soirs, je charge mon iPhone en allant me coucher tout simplement. Alors messieurs, petit tour d'horizon dans ce plateau. Quand rechargez-vous vos iPhones, vos Macs? On peut peut-être commencer avec Sylvain.
Alors moi, je suis plutôt dans la catégorie de recharger dès que je peux. Même si on sait qu'on en reparlera plus en détail, qu'une batterie lithium est très performante, plus performante lorsqu'on la recharge régulièrement, même très peu.
Ouais.
Et que quand on recharge par exemple une batterie de 50% à 100%, ça ne correspond qu'à un demi-cycle. Comme une des caractéristiques des batteries, c'est le nombre de cycles. On en reparlera.
On va revenir en détail dans un instant. De ton côté, tu recharges souvent, Laurent?
Alors moi, j'ai changé de mode de recharge depuis l'iPhone 11 Pro.
Ouais.
C'est-à-dire qu'avant, je chargeais systématiquement toutes les nuits. J'étais un peu un métronome. Quand je arrivais le soir, je branchais mon téléphone, je le récupérais le matin. Et si tout allait bien, j'arrivais à tenir ric-rac la journée. Je vérifiais dans la journée la décharge. Et si j'étais un peu short, je remettais un petit coup sur le bureau, soit en sans fil, soit en filaire. Et en fait, depuis l'iPhone 11 Pro, pour moi, il y a eu un véritable gap en termes de batterie. Et je me rends compte que j'ai plus besoin de le recharger la nuit. C'est-à-dire que je le recharge le matin en arrivant au bureau, je le débranche et ensuite finalement je tiens jusqu'au lendemain matin. Donc c'est très, très très
très très agréable.
Ouais, mais du coup je m'attendais à me faire surprendre, ouais. Mais j'ai vraiment changé mon mode de recharge.
Stéphane, de ton côté, est-ce que tu es comme beaucoup d'utilisateurs, de gens qui regardent On refait le Mac tout simplement, recharge tous les soirs Et attendre le mode réserve, j'y suis arrivé.
Ben, moi, j'ai voté pour le mode réserve déjà. Mais c'est vrai que maintenant, comme Laurent, je n'ai plus cette obsession de la nuit. Et surtout.
Parce que tu as 11 Pro, il faut le dire. Hein,
j'ai 11 Pro Max, ouais. Après, j'ai découvert, et on aura la confirmation un peu plus tard dans l'émission, mais ce qui est toujours intéressant d'apprendre, c'est que charger sa batterie une fois qu'elle est à 100% et continuer à la charger, ça l'use. Donc maintenant, la laisser la nuit, c'est jamais une bonne chose. Donc moi,
alors, ça l'use, tu vas voir que c'est un peu plus compliqué que ça.
Ah oui, je sais. Justement, je suis content d'être exactement dans cette émission parce que je vais être aussi un spectateur parce qu'on va apprendre plein de choses.
Alors,
j'ai déjà appris plein de choses. En lisant, mais là je vais apprendre plein de choses, je pense, en écoutant.
Il n'y a pas tous les éléments de réponse dans le script, il y a des effets de surprise, méfie-toi. Stéphane. Sylvain, quelle pratique faut-il adopter concrètement pour assurer la meilleure durée de vie de sa batterie? Faut-il attendre d'être à zéro ou au contraire, comme Julien Salamanca, notre twitto sur la page Twitter dont on refait le Mac, il faut recharger toute la journée au bureau sur un socle vertical parfait pour Face ID? Alors oui, effectivement, comme un peu. Ouais. Tu as donné quelques éléments de réponse, mais rentrons dans le détail.
Juste pour dire que je ne suis pas encore passé moi sur le 11 Pro, donc j'ai encore ma bouteille à oxygène et le powerbank est quand même l'outil important pour recharger régulièrement sa batterie. Mais effectivement, on a avec cette nouvelle technologie lithium, hein, pour les plus anciens, on a plus cet effet mémoire des anciens, ouais, des anciennes batteries.
Avec le nickel-cadmium et le NiMH.
Nickel-cadmium, hein, voilà. Ouais. Et par contre, du coup, cette technologie de batterie est vraiment utilisable pour la recharger régulièrement. C'est-à-dire que c'est une batterie qui est très performante. Donc, il n'est vraiment pas utile d'attendre qu'elle soit à 0% pour la recharger.
Donc, on ne l'use pas. Au contraire.
Plutôt dans une gamme.
Si on veut améliorer son rendement, il faut la recharger le plus rapidement
50-80,
possible.
50-80, on est beaucoup plus. Ouais.
Alors, est-ce que tu peux répondre à l'inquiétude de Stéphane qui dit qu'est-ce qui se passe quand elle est rechargée à 100%? Est-ce que ça l'use de la laisser tout simplement connectée à un câble Lightning ou tout simplement un chargeur sans fil?
En théorie, un des éléments importants, on en reparlera aussi plus tard, c'est le système de gestion du téléphone.
Oui.
De façon plus générale, on en parle plutôt de BMS quand on parle de batterie.
Battery Management System.
Battery Management System. Dans un smartphone, on parle plutôt de PMIC, donc de Power Management Integrated Circuit.
Ouais.
Et ces composants sont là justement pour couper la recharge du téléphone lorsque le téléphone a atteint 100%, pour ne pas continuer à recharger.
Parce que ça recharge, mais ça continue à alimenter le téléphone pour ne pas user la batterie.
Exactement.
Pour ne pas commencer un nouveau cycle.
Exactement.
Donc voilà, te voilà rassuré, j'espère, Stéphane. Est-ce que c'est moins problématique, Sylvain, sur un ordinateur, la gestion de la batterie qui peut rester, lui, en charge? Là, mon MacBook Pro n'est pas connecté, qui peut rester en charge toute la journée. Est-ce qu'il y a des pratiques différentes en fonction du type d'appareil que l'on a?
Il y a un principe, c'est que une des contraintes amenées par les recharges, qu'elles soient filaires ou on en parlera après sans fil, sont la problématique de l'effet Joule. Donc plus vous êtes contraint, plus vous avez un problème de dissipation thermique. Donc cette dissipation thermique est beaucoup moins pénalisante dans un ordinateur que dans un smartphone qui en plus est très très contraint en termes d'espace puisque les fabricants de smartphones veulent mettre des fonctions, veulent mettre plutôt des senseurs et des capteurs que la batterie qui est une obligation pour eux, en fait. Hein.
Ce qui a conduit à la mésaventure de Samsung il y a deux ans avec le Galaxy Note 7, c'est ça?
Ouais. Quelques millimètres, hein, quelques microns.
Ouais.
Ouais. Et concrètement, pour un MacBook Pro comme celui-ci ou un PC lambda, est-ce que on sait que la contrainte de finesse est quand même relativement importante, moins importante que sur un téléphone. Tu conseilles quoi, de le laisser brancher en permanence ou au contraire, comme le téléphone, de le charger plus simplement?
Aujourd'hui, le système de gestion des ordinateurs permet de le laisser en permanence et on a même des évolutions parce qu'une des contraintes de ces PC, c'est qu'on se balade tous avec justement ce chargeur externe qui est aussi une contrainte. Et de plus en plus, on va avoir arriver des solutions qui vont être complètement intégrées dans les laptops. Et vous n'aurez plus qu'à poser votre PC sur un bloc,
ouais,
avec même pour certaines technologies une vraie conduction métallique.
Presque une recharge sans fil.
Donc une recharge sans fil. Ouais.
Ça fait rêver, hein. On espère qu'Apple, avec l'aluminium, ça risque d'être assez compliqué.
Ça ne sera peut-être pas
les matériaux qu'utilise Apple aujourd'hui pour y arriver, mais qui sait un jour. Il y a beaucoup de questions sur le compte Twitter de Renfait le Mac cette semaine, toujours au sujet du bon usage de sa batterie. Est-ce qu'il faut charger systématiquement à fond sa batterie tous les jours ou suivre plutôt les conseils de Potra TV sur le compte Twitter de Renfait le Mac qui lui demande 95% du temps, c'est pour faire du 20-80%. Ça veut dire quoi, ce 20-80%? C'est-à-dire qu'il faut s'astreindre à ne pas charger à fond, c'est ça?
En fait, c'est un peu là, on revient plutôt sur le nombre de cycles. C'est-à-dire que si vous explorez votre recharge de 0 à 100%, c'est un cycle complet. Et on sait qu'une des limites de la durée de vie de la batterie, c'est le nombre de cycles. Alors que si, pour une technologie lithium, si vous avez, vous faites régulièrement une recharge, de 50 à 100%, c'est un demi-cycle. Donc vous optimisez aussi, en rechargeant souvent, mais sur une profondeur qui peut être assez faible, vous optimisez la durée de vie de votre batterie. C'est un peu l'équivalent aussi de ce qui commence à se faire dans les véhicules électriques pour certains constructeurs.
Peut-être qu'aussi, ce que moi j'ai perçu dans la question, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les batteries, on se rend compte qu'elles se chargent très rapidement pour obtenir
jusqu'à 80%,
et puis qu'ensuite il y a une espèce d'écrasement. Donc c'est peut-être là-dessus. Et effectivement, dans les voitures, si on prend le cas des Tesla, dans l'outil de gestion Tesla, ils vous disent ne chargez pas votre batterie à fond, ça sert à rien, ne la chargez à fond avec une petite réglette, ne la chargez à fond que si par exemple du lendemain vous avez un long voyage faire.
Les watts de 80 à 100% sont beaucoup plus compliqués à obtenir que de 20 à 80%.
Ce qui explique que ça prenne plus de temps.
Et ça prend
plus
de temps.
Aussi de peut-être d'abîmer un peu plus la batterie, de l'user un peu plus rapidement, même si le terme n'est pas adéquat. Ouais.
Je vais juste raconter une anecdote marrante, et c'est Grégory Renard, le cofondateur de X-Brain, qui me l'a raconté la semaine dernière. Il y a des problèmes d'incendie en Californie.
Oui.
Et en fait, ils ont coupé, donc PG&E, qui est le EDF local, on va dire, a coupé l'électricité pour éviter les incendies, parce que les étincelles qui sautent de leur déclenchent les incendies. Et je lui ai dit, mais du coup, lui qui est quand même équipé de véhicules électriques, je lui ai dit, t'as pas été embêté? Il me dit, non, j'ai été très embêté avec ma moto. Je dis, mais comment ça? Il dit, ben en fait, les voitures électriques étaient chargées à fond, donc on a pu rouler toute la journée sans problème. Mais ma moto, il n'y avait aucune station essence qui était capable de me donner de l'essence.
Oui, parce que les pompes sont...
Les pompes étaient coupées à l'électricité.
Tout simplement, comme quoi, voilà.
Ça marrant.
Autre question, toujours sous Twitter de Scrambled, qui veut certainement que l'on décolle immédiatement. Une mission bientôt sur le mode recharge optimisée. Est-ce que c'est vraiment efficace? Alors, parlons-en. Hein. Apple a introduit dans iOS 13 la fonction activée d'office recharge optimisée de la batterie. Elle permet de lutter contre le vieillissement prématuré des batteries comme... Alors comment ça marche, Laurent, Stéphane, est-ce que vous l'avez utilisé?
Oui. Alors,
un petit mot avec Laurent et peut-être un petit mot avec Stéphane juste après.
Le principe, en fait, c'est de se dire il n'y a pas besoin de charger votre batterie. Alors, on parle des fameux la difficulté d'aller chercher les watts entre les 80 et 100.
On le voit, regarde, dans le petit
tout à fait. Donc, en fait, il y a un menu qui permet de charger rapidement, c'est-à-dire en à peu près moins d'une heure, une heure et demie, de 0 à 80. Et puis ensuite, de ne charger les derniers 20 que par rapport à des événements. Alors, Apple le vend en disant, oui, on a doté le système d'intelligence artificielle pour faire que ça charge. Moi, je me suis amusé à faire quelques tests. Et les tests que j'ai faits fonctionnent très bien quand on a une heure de réveil. C'est-à-dire qu'en fait, se base sur l'heure de réveil.
Si tu n'as pas activé ton heure de réveil.
Ouais, en tout cas, j'ai testé sur les habitudes et sur l'heure de réveil. Ça marche très bien avec le réveil, ça marche un peu moins avec les habitudes. Donc, est-ce que c'est la quantité de mesure de mon habitude qui est nécessaire? Par contre, ça marche à tous les coups avec mon heure de réveil. Donc, j'ai développé une petite appli iOS pour monitorer le chargement. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Donc, bon, je pense qu'il y a de la marge de progression infinie là-dessus. Et j'ai pas de doute que ce qui est certain, c'est que l'IA s'applique particulièrement bien à ce genre de choses. Par contre, sur quelque chose aussi simple que finalement quand est-ce que tu as besoin que ton téléphone soit chargé, c'est au moment où tu vas te réveiller quoi. Donc en fait à partir du moment où tu as une heure de réveil, te prends pas la tête.
Alors si vous voulez savoir où en est votre batterie, petite parenthèse, c'était pas forcément prévu, je me suis rendu compte qu'on ne l'a pas précisé, vous allez simplement dans les préférences Apple sur votre Mac, vous avez le nombre de cycles de recharge qui sont affichés, ça vous donnera véritablement une idée concrète.
Et un pourcentage de capacité de la batterie.
Ça vous permet d'activer ou non sur iOS ce que vous voyez à l'écran, simplement le mode optimisé de recharge. Donc il va se bloquer à 80%, et si vous dormez encore une heure, la dernière heure va charger les derniers 20%, si ça suffit. Et puis si vous avez recherché une application un peu plus pointue, notamment pour Mac, pour avoir plus d'infos sur votre batterie, une petite application qui est gratuite, qui est très sympa, qui s'appelle Coconut Battery. Et c'est assez remarquable sur la gestion, la puissance où serait tout sur votre batterie. Stéphane, est-ce que tu as fait l'expérience de cette optimisation?
En fait, on voit très vite les résultats de cette optimisation. C'est que déjà, Laurent l'a dit, je l'ai dit, on ne charge plus comme des morts à la fin nos téléphones.
Surtout,
on
n'a plus la batterie additionnelle à côté. Hein. Moi, c'est fini, j'ai plus la queue.
Regarde, tu vois là, j'ai deux téléphones qui se ressemblent.
Oui.
Et en fait, ils ne se ressemblent pas. Donc, en gros, on a un 10S d'un côté et on a un 11 de l'autre côté. Et ben, c'est le jour et la nuit. Tu vois, je devance la dernière séquence dont refait le Mac. Pour mon coup de cœur, j'aurais pu dire la batterie du 11 Pro Max.
Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a un vrai progrès. On le paye un peu au niveau de la gestion de l'écran, puisqu'on n'a plus la fonction de pression sur l'écran. J'ai oublié son nom, mais ça reviendra. Mais c'est vrai qu'en matière d'autonomie, j'ai plus besoin, comme Sylvain, d'avoir une batterie additionnelle. Oui, Laurent.
Je voulais juste ajouter le point, j'en ai parlé en introduction. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, vous savez que c'est un domaine qui me passionne. On parle beaucoup d'éthique dans l'intelligence artificielle. Le paradoxe, et c'est Lofred Mazou qui m'a présenté ça. Lofred Mazou, c'est la personne qui a rédigé la partie éthique du rapport Villani sur l'intelligence artificielle, qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Et il m'a fait réaliser que le comportement que l'on a sur la recharge de son téléphone en dit beaucoup sur nous. Et en fait, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour définir ton profil psychologique. Typiquement, très intéressant.
Pour que t'es Mama Corsica, je recharge à mort, j'ai peur de manquer.
Ouais, ça veut dire que typiquement, si on te prenait dans un job d'innovation où il y a une prise de risque, potentiellement, tu ne serais pas la personne adaptée. À l'inverse, la personne qui tomberait en panne de son téléphone, qui, tous les jours, qui arriverait jusqu'à
la... prendre les risques.
Ouais, hein, peut-être qu'il ne serait pas chez un assureur, il ne pourrait pas avoir un job d'actuaire, où on doit mesurer le risque en permanence. Ouais. Donc ce qui est très intéressant,
c'est bon, c'est la
peur de l'échec.
Exactement, alors qu'en fait, pour un actuaire chez un assureur, c'est de faire un assessment du risque en permanence. Donc c'est très intéressant d'imaginer qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'IA, et surtout dans sa batterie, on n'a pas l'impression qu'on sait des choses sur nous avec notre batterie, pourtant si.
Voilà, surtout qu'entre-temps est apparu des modes de recharge qui permettent de recharger plus rapidement. Nous avons reçu d'ailleurs pas mal de questions concernant la recharge avec ou sans fil, la recharge rapide. Nous allons y répondre tout de suite. Recharge rapide avec ou sans fil, est-ce que la charge rapide réduit la durée de vie de nos batteries? C'est la question de Jérémy Acte 13 sur le compte Twitter d'On refait le Mac. Alors, on a vu, Sylvain, qu'Apple a été très timide pour l'adoption de la charge rapide dans ce domaine. La pomme n'a introduit son chargeur rapide que cette année, avec l'iPhone 11 Pro, un modèle 18 watts USB-C, c'est le même que celui qui est sur l'iPad Pro, qui rend très différent du traditionnel compact chargeur 5 watts USB-A. Ils annoncent 50% de la batterie chargée en moins de 30 minutes, environ, Sylvain. Est-ce qu'on ne le paye pas, quelque part, sur si ça recharge plus vite, ça risque d'abîmer les cellules de la batterie?
Non, mais effectivement, il faut avoir une qualité du produit. Je pense que plus on monte en puissance, plus les compétences en électronique de puissance ou en conversion d'énergie, et on est assez bien placé pour en parler chez Schneider, sont importantes. Lorsque vous faites des produits, des conversions à 5 watts, pas la même problématique. Là, on parle de 18 watts, mais on a aussi du 40 watts.
Ouais.
L'USB-C est capable d'aller jusqu'à 100 watts, et on va avoir d'ailleurs... dans des prises électriques, sans citer de marque, des USB-C qui seront à 45, 50, voire 100 watts. Donc la contrainte et la façon dont ces produits sont conçus est très importante. Donc faut
faire très attention.
Et j'imagine que autant, comme vous choisissez votre téléphone et vous regardez les specs techniques précises, prenons la même précaution quand on achète un chargeur. On va éviter peut-être des chargeurs qui viennent de...
Tu me disais en préparant cette émission, pas de chinoiserie en clair.
Pas de chinoiserie. En tout cas, ne pas croire qu'on va faire une bonne affaire en achetant du low cost, notamment quand on monte, quand on monte dans ces puissances-là.
Ouais, parce que non seulement on risque d'abîmer parce qu'il envoie trop de courant, mais en plus il y a un risque physique potentiellement.
Il y a un risque physique. Le chargeur monte en puissance. Alors, sans parler aussi de l'aspect... empreinte écologique ou développement durable, parce que la compétence d'une conversion d'énergie, c'est d'avoir une efficacité de rendement la plus élevée possible. Mmh. Et 1% de rendement, c'est énorme quand on commence à arriver à des chargeurs de 40 watts ou de 100 watts. Donc avoir un produit qui est capable de faire du 97, du 99% d'efficacité et de rendement, ça demande une conception d'électronique de puissance et de driver qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde.
Ouais. Et concrètement, donc, il faut faire très attention, il faut plutôt privilégier une marque, parce qu'effectivement, tu l'as dit Laurent, il y a un risque potentiel d'incendie, voire de choc électrique. On voit de plus en plus dans les faits divers des journaux ou d'ailleurs des cas de choc électrique.
Hein. Oui. Il y a la règle des 2C qu'on utilise beaucoup notamment dans le véhicule électrique, qui fait que cette règle-là aujourd'hui permet de ne pas endommager les batteries en charge rapide. En gros, on parle de kilowattheure, hein, et de kilowatts, c'est donc le volume de la baignoire et puis le débit dans la baignoire. Et aujourd'hui, une batterie de 50 kWh, la règle des 2C dit qu'on peut la charger jusqu'à 100 kW en charge rapide.
Ouais.
Et tous les acteurs travaillent pour aller sur du 3C et du 4C dans le futur. Ouais. Donc il y a certaines règles à respecter et des composants qui respectent certaines normes.
Moi, j'ajouterais juste un point, et j'aurais dû le placer juste avant, mais il y a aussi un problème de tension. Ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que l'USB-C permet de transporter autre chose que du 5 volts. Mm-hmm. Typiquement, quand tu charges ton ordinateur de mémoire, tu n'es plus en 5, tu es en 12 ou 18. Et des chargeurs de mauvaise qualité, en fait, il y a une info-retour pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de charger. Typiquement, si tu prends un chargeur, tu es en train de charger en 12 volts ou 18 volts un élément, tu le débranches et tu branches sur, par exemple, un iPad, et demain, possiblement les iPhones sur de l'USB-C. Alors, aujourd'hui, tu peux griller ton terminal parce qu'en fait, lui, il attend du 5 volts et pas du 18 volts. Ouais. Donc, il y a l'intensité et on a un problème d'intensité et de voltage.
Normalement, Sylvain, l'iPhone, pour prendre le cas de l'iPhone, parce qu'il est le plus courant, il adapte la charge. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de charger avec un 85 watts, il n'acceptera jamais
le
l'ampérage.
Notamment le composant qui permet de faire la gestion et le chargeur de pouvoir...
Il va limiter à 20 ou 30 watts. Stéphane, souviens-toi lorsqu'on avait fait les émissions sur, où on comparait les iPhones avec les modèles sous Android, notre ami Hubert du Bergismo nous avait dit qu'il y avait certains modèles sous Android qui intégraient non pas une, mais deux unités de batterie, justement pour mieux gérer la montée en charge et en clair accélérer encore plus, un peu plus la recharge. En clair, vous avez bien compris, on atteint 80% assez rapidement, mais là on met deux batteries qui se rechargent en parallèle. C'est une voie intéressante qui n'a pas été adoptée par Apple, hein,
oui.
Stéphane.
Oui, mais ça avait un impact sur le poids aussi, mais c'est vrai que c'était un truc intéressant. Et à l'époque, quand on avait testé, c'était une recharge quasi en 30 minutes on pouvait utiliser son téléphone, même pas 20 minutes on pouvait utiliser son téléphone. C'était intéressant. Maintenant, j'écoutais les Chinois à propos des chinoiseries et des chargeurs qu'on peut acheter comme ça facilement sur certains sites à moindre coût en disant qu'ils sont soi-disant rapides et qu'il faut s'en méfier en effet. Je pars du principe quand même que parmi les fournisseurs donc de chargeurs de batterie, il y a des constructeurs de téléphones dont Huawei et Xiaomi, et leurs chargeurs sont rapides, sont effectivement très rapides. Alors après, est-ce que ceux-là sont tellement rapides et ils voient que c'est ils reconnaissent peut-être que c'est une batterie d'iPhone et qu'ils vont nous aiguiller notre batterie pour qu'on achète un autre
je sais. Alors, pas si pas de théorie du complot, monsieur.
Je sais bien. Non mais tu vois, je t'ai promis des petites choses pour cette émission. Voilà, ouais. Je vais commencer.
On va flinguer les téléphones des concurrents. Non, je pense pas qu'ils en arrivent là. Non, mais quand on dit pas de chinoiserie, c'est pas de en clair, Sylvain, de produits sans marque ou de produits pas reconnus. Huawei et Xiaomi, c'est reconnu, bien sûr.
Aujourd'hui, on trouve des chargeurs de téléphone, donc USB, hein, à 1-2 euros. Quoi.
Ouais. Oui,
Faut
faire gaffe.
Si on fait référence à une autre rupture technologique qui a eu lieu il y a quelques années sur l'éclairage, on est passé aux ampoules à LED. Il y a eu un grand nombre aussi d'ampoules à LED qui étaient voire dangereuses parce qu'il y avait juste un pont de diode pour faire la conversion. Enfin, là, donc c'est clairement le bas coût n'est pas l'assurance. Voilà. Là, d'une...
Donc soyez vigilants sur l'aspect des chargeurs électriques. Il ne faut pas hésiter, surtout si vous avez mis un peu de sous dans votre téléphone ou votre ordinateur.
Exactement.
Notamment.
Et le point est intéressant, on ne va pas rentrer dans la technologie, mais grosso modo, ce qui a permis la réduction de la taille des chargeurs, c'est la suppression du tor, en fait, hein, donc du chargeur qui était facile, hein, parce que, en fait, on avait une tension tension en entrée, une tension en sortie. En fait, c'était une division du nombre de tours. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on abaisse la tension. Mmh. Donc, en fait, tu abaisses la tension par l'électronique. C'est-à-dire qu'en fait, entre ton 220 en entrée ou ton 110 sur le marché nord-américain ou ailleurs dans le monde, tu redescends avec un système de réduction. Et si tu es de la mauvaise qualité...
On peut avoir de mauvaises surprises.
Exactement.
Ouais. Surtout que sur le MacBook Pro, maintenant, vous pouvez mettre n'importe quel chargeur, n'importe quelle batterie externe, ce qui est plutôt une belle avancée. Donc, il faut être prudent. Autre question, beaucoup de questions autour de la recharge sans fil, comme Stéphane Coupchou sur le compte Twitter de Refait le Mac. Bonjour, je voudrais savoir si la recharge par induction abîme davantage les batteries que la recharge par câble. Merci, on refait le Mac. Alors, c'est là encore du domaine, on pourrait dire, de la légende urbaine, Sylvain, comme quoi la recharge par induction a tendance à abîmer les batteries, c'est vrai ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense d'ailleurs que ça avait même être au contraire un plus, puisque on l'a dit au début de l'émission, le lithium et la batterie lithium est plus performante quand on la recharge régulièrement, etc. Et donc du coup, la batterie et la recharge sans fil permet de changer de paradigme, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un mode où tous les soirs on est obligé de brancher son 11 Pro, mais à chaque fois qu'on est quelque part, on va avoir de plus en plus de solutions intégrées. Par contre, de la même manière que l'on doit faire attention aux chargeurs filaires pour son téléphone, les technologies de recharge par induction sont plus ou moins aussi optimisées et performantes, parce qu'il reste à aussi avoir une dissipation thermique dans ce produit.
On l'a vu, regarde, on voit le AirPower à l'écran, qui était le fameux chargeur induction d'Apple qui n'est jamais sorti. Il n'y a pas de raison officielle, hein, si ce n'est qu'apparemment c'est compliqué de charger plusieurs éléments sans fil, parce que ça chauffe énormément. Est-ce que ça ne vient pas de là parce que c'est vrai qu'un produit a tendance à chauffer, c'est de l'induction, et donc ça a créé cette rumeur comme quoi c'était nocif pour les batteries.
Je pense qu'il y a du côté d'Apple, il y a sans doute une vigilance sur l'usage de ces téléphones et de ne pas risquer la réputation et la qualité de la marque. Et il y a encore énormément de différents émetteurs, parce que là, dans ce cadre-là, on a une partie émission, une partie réception qui est embarquée dans le téléphone. Et il y a beaucoup de fabricants d'émission wireless charging, dont la conception n'est pas forcément très optimisée, et surtout la dissipation thermique qui doit être bien intégrée, puisque néanmoins les rendements ne sont pas à 100%, il faut donc dissiper, peuvent contribuer à cela. Alors, sachant qu'il y a aussi un autre élément, c'est évidemment, mieux vous avez centré votre téléphone, mieux la recharge est bonne.
En fait, il faut comprendre que je parlais tout à l'heure du transformateur, hein, on en revient un peu au même effet. Hein. C'est vous avez un système donc de tore, hein, je dirais, selfie, qui donc en fait il faut que les deux qui les deux doivent être le plus alignés possible. Si elles sont parfaitement alignées, c'est là où vous avez le moins de pertes.
C'est pour ça qu'il faut parfaitement aligner son téléphone avec la bobine.
Mais si on prend le cas du produit Apple, en fait, ce qui semblait ressortir, c'est qu'ils avaient du coup mis plein de bobines.
Oui, parce que plusieurs appareils qui devaient être
Et donc du coup tu te retrouvais sur une charge
Faire le reverse aussi de charging.
Oui. Et du coup tu te retrouvais entre les deux bobines, tu avais tout un système, le concept est génial, je pose sa charge, la réalisation je pense est un peu plus complexe.
Ouais. Et on a vu, tu parlais de reverse charging, c'était une fonction qu'on attendait sur l'iPhone 11 Pro, regardez la pomme elle est au milieu, c'est pas un hasard parce qu'on aurait pu poser par exemple des AirPods pour les charger et on sait toujours pas si la fonction est là ou si elle n'est pas là. Puisqu'il y a la bobine est liée dans un sens et pourrait être dans l'autre sens pour charger ou pour envoyer du courant. Et Apple, selon certaines rumeurs, l'aurait désactivé pour des questions d'optimisation électrique. On aura la réponse. Il y a une mise à jour qui vient d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine. On est bien d'accord, donc, Sylvain. Non seulement la recharge sans fil n'est pas nocive pour la batterie, mais elle est même conseillée parce que le rendement de recharge est moins important. Donc, ça stresse moins la batterie, tout simplement.
Tout à fait. Et elle va se généraliser.
Oui. D'accord. Alors, tu nous as préparé un petit slide pour cela. Une chose est sûre, c'est que vraiment, il y a un énorme boom en ce moment sur la recharge sans fil.
Il y a effectivement plus d'1,4 milliard de produits qui sont prévus d'ici 2024, donc dans les 5 ans qui viennent, de façon globale, parce qu'évidemment, ça ne concerne pas que le smartphone. On a énormément de produits, les AirPods, les montres et les casques. Alors, donc il y a énormément de produits. C'est ce slide qui montre cette évolution. Et quand on regarde uniquement la partie des smartphones, On a un peu plus de 300 millions aujourd'hui, une taux de pénétration de 22% des smartphones qui sont équipés de recharge sans fil.
Donc c'est la tendance du
À l'horizon 2024, c'est 44%, c'est pratiquement un téléphone sur deux qui sera...
On va la trouver partout, dans les meubles, dans les voitures.
Exactement. Ouais.
Stéphane, toi qui as testé beaucoup de chargeurs alternatifs au AirPower, tu as fait également ce constat, tu es rassuré sur la durée, sur la qualité de recharge, si tu utilises bien sûr des chargeurs de qualité.
J'utilise des chargeurs de qualité, comme tu peux imaginer. J'en achète souvent. J'essaye toujours de trouver des choses pratiques dans les voyages et tout. Et bon, j'ai pas eu de problème de batterie.
Ouais, ça fait à peu près 2 ans maintenant, hein, Stéphane, qu'on a l'iPhone avec la recharge sans fil. Moi non plus, j'ai pas eu de soucis majeurs. Oui, continue,
Stéphane,
pardon.
En plus, ce qui est juste intéressant, c'est comme je passe mes téléphones à mes fils, par exemple, je peux voir éventuellement... je recycle.
C'est la seconde vue.
Voilà, et eux l'utilisent encore plus intensément, en tout cas différemment de moi. Il n'y a pas vraiment de particulier, sauf que eux, bizarrement, les deux grands, n'utilisent pas des chargeurs sans fil. Ils n'aiment pas trop ça.
Ça va pas assez vite.
Ils préfèrent avoir le truc. Ils ont toujours une batterie de rechange. Donc je ne sais pas si c'est nous ou eux.
Mais ils n'ont pas de bureau, donc forcément ils ne peuvent pas s'arrêter et poser ça sur quoi
de
table.
Le jour où l'école mettra
un chargeur à induction à tous les élèves, ça en est loin, croyez-moi.
C'est intéressant cette histoire-là.
Oui, Stéphane. Oui, en plateau avec Laurent.
Moi j'ai plein de gens qui me disent j'aime pas la recharge sans fil. Parce qu'en fait, si tu ne le mets pas exactement dessus, ça ne charge pas. Du coup, il y a cette espèce d'angoisse de ne pas poser le téléphone.
Avec les mauvais chargeurs sans fil, Laurent.
Oui, on est d'accord. Moi, je me suis amusé à faire, pour répondre à une question qui m'avait été posée il y a quelques jours, et du coup, en préparant l'émission, je suis allé chercher si, en fait, la charge était alternative. C'est-à-dire si tu pouvais charger avec fil et...
Les deux en même temps. Ah,
ouais.
Tu sais bien prendre des risques. Je vais charger en sans fil et puis rajouter le lightning.
Tout à fait. Donc, en fait,
charge rapide pendant qu'on y est. Allons-y.
Selon toute logique, en fait, le PMIC le coupe. Et prend celui qui apporte le plus
d'intensité. Donc, c'est l'un ou l'autre.
Non, c'est pas l'un ou l'autre. C'est celui qui apporte le plus d'intensité. Celui qui apporte le plus d'intensité, en fait, c'est le filaire. Donc, en fait, si tu mets les deux, c'est que le filaire qui est pris.
Évitez les deux.
Ça sert à rien.
Sylvain.
Oui, juste un point, je voulais rajouter sur ce principe-là, parce qu'on pourrait même imaginer, tous les constructeurs investissent beaucoup dans ces sujets-là, qu'on est vraiment sur la notion de charge as you go. Dès que vous arrivez, vous chargez et vous allez charger rapidement. Ce qui pourrait être une façon aussi de ne pas forcément continuer la course à l'armement de la taille de la batterie. Voire même, éventuellement, pourquoi pas, de la réduire, puisque les évolutions de batterie vont faire que vous aurez plus de puissance avec un encombrement plus réduit, pour pouvoir avoir plus de place pour continuer à rajouter des capteurs, des senseurs, etc. Donc il peut y avoir aussi une stratégie d'usage pour que nous soyons de plus en plus utilisateurs sans fil, pour pouvoir libérer un peu de place dans
ces qu'on va charger, on va prendre l'habitude de recharger plus souvent des batteries qui sont un peu moins puissantes.
Sur le marché américain et... il n'y a pas un Starbucks où les tables ne sont pas équipées de chargeurs sans fil. Hein. Donc, nous, on a quelques Starbucks qui ont ça, c'est rare. Et sur les véhicules aujourd'hui, les véhicules apportent tous.
C'est un des grosses parties.
Les véhicules apportent tous la charge sans contact. Et le problème de la charge sans contact, c'était que CarPlay ou Android ne fonctionnaient pas bien sans fil. Et là, les dernières versions fonctionnent très, très bien sans fil. Donc, du coup, tu arrives, tu jettes ton téléphone dans la voiture au fond de la boîte à gants, il se glisse et se positionne bien pour la charge. Et en plus, tu récupères tout ton...
L'enjeu maintenant, c'est comme tu le disais tout à l'heure, Sylvain, c'est que cette recharge sans fil se généralise à d'autres appareils que le téléphone. Pourquoi pas l'iPad? Bon, ce n'est pas encore le cas. L'ordinateur, tu nous donnais un exemple tout à l'heure. Et c'est sûr que ça devrait grandement s'accélérer de manière générale. On va continuer à s'intéresser aux améliorations et futures des batteries. Mais d'abord, place au busomètre. Le busomètre, en l'absence de Didier Policani, nous enregistrons mercredi cette semaine. Et donc, mercredi, c'est la journée des enfants. Donc, c'est quand même... Voilà, donc je vais essayer de remplacer Didier. Première rumeur, le MacBook Pro 16 pouces cette semaine, selon Bloomberg, peut-être même aujourd'hui, nous enregistrons mercredi, il est l'heure du déjeuner, on verra si ce soir, au moment du montage, on a tort ou raison. Deuxième rumeur, le Mac Pro serait toujours, selon Bloomberg, dans les canons et dans les tuyaux, devrait arriver, on espère, au mois de décembre. C'était comme déjà le cas il y a du temps du précédent Mac Pro en forme de baril, mais également l'iMac Pro. Troisième rumeur, beaucoup de rumeurs cette semaine autour d'un casque de réalité augmentée en 2022, mais également, attendez, c'est pas fini, des lunettes en 2023. Et ça, c'est le site The Information ainsi que le célèbre analyste Bing-Chi Kuo, qui s'est pas mal planté ces derniers temps, qui nous sort cette rumeur. Quatrième rumeur, qui n'est pas une rumeur, mais qui est une info de Deadline. Apple TV+, le responsable des fictions de Apple TV+ et des documentaires, a déjà quitté Apple. Est-ce que c'est déjà un mauvais signe, une semaine ou presque après le lancement d'Apple TV? On va essayer d'y consacrer une émission la semaine prochaine. Ça dépendra des annonces d'Apple. On verra si on fera Apple TV la semaine prochaine. Et enfin, dernière rumeur, qui n'est pas banale, celle-là, l'Apple Card sexiste, selon... c'est le service financier de l'État de New York qui a ouvert une enquête. Il semblerait que aux États-Unis, si vous êtes un couple et que vous faites une demande de crédit avec votre carte, le mari systématiquement a droit à plus que l'épouse ou la compagne, notamment si la compagne est restée longtemps avec la personne. C'est assez curieux.
Steve Wozniak s'en est plein parce qu'il a fait le test lui en disant tous nos comptes sont joints avec ma femme et on a le même credit score. Hein, alors on connaît peu ça en Europe, le credit score, mais aux États-Unis c'est la chasse au credit score, ce qui se permet. Et en fait, il dit avec le même credit score, j'ai deux fois plus ou trois fois plus que mon épouse.
Voilà, et c'est comme si Goldman Sachs, la banque américaine,
c'est certainement pas un problème Apple d'ailleurs, hein,
qui gère la carte de crédit d'Apple, c'est elle qui est en première ligne et apparemment devrait répondre dans les jours ou les semaines qui viennent. Allez, question suivante, celle de Julien Pernet. Quelle est la future révolution batteriesque? Quels seront leurs avantages et dangers? Je vous propose d'y répondre dans nos deux derniers chapitres de cette émission. Sylvain, en préambule, quels sont les risques concrètement? On a beaucoup écrit sur le sujet, au sujet de l'usage des batteries. La plupart du temps, en cas défaillant, qu'est-ce qui se passe? Nous, ce qu'on voit, puisque ça m'est arrivé plusieurs fois historiquement avec des Mac notamment, on assiste à un gonflement, c'est ça, de la batterie?
C'est le problème de l'échauffement dont on parlait tout à l'heure. S'il y a une réaction en chaîne qui se déclenche parce qu'il y a une surcharge de courant notamment, et donc du coup on dépasse les limites aussi thermiques. On a un emballement thermique parce qu'en plus on est dans un environnement confiné qui privilégie cette problématique.
Alors, les problèmes qu'on a décrites lentement avec Samsung, il se passe quoi? Il y a vraiment une explosion? C'est le fait de le gonflement ouvre la batterie et au contact de l'oxygène, c'est ça qui provoque l'enflammement?
On a un dégazage et donc le gaz a besoin d'espace. Et donc d'où on a cette déformation mécanique qui va jusqu'au craquement, voire l'explosion de la batterie. Et puis ensuite, avec effectivement le contact avec l'oxygène, on peut avoir ce déclenchement dessus. Oui.
Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quel est le bon réflexe par rapport... Ça arrive très rarement. Par rapport à ce type de phénomène, qu'est-ce qu'il faut faire? On sait que notamment dans les avions, il y a des sacs, on ne le sait pas, mais les équipes à bord ont toujours des sacs où on peut confiner un téléphone. Et si ça vous arrive à la maison ou à un ordinateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout pas d'eau.
Ouais. Effectivement, c'est plutôt du sable ou des matières qui sont spécialisées pour pouvoir arrêter le dégagement de feu sur la batterie.
Ouais. C'est ce qu'on a, Stéphane, dans les Apple Store. Je ne sais pas si c'est toi qui m'avais raconté ça. Dans les Apple Store, ils ont une sorte d'étuve qui est au-dessus des tables de travail, des news bars qui balancent du sable sur les batteries s'il y a un dégagement de fumée.
Voilà, exactement. Bah, de toute façon, je crois que c'est des règles de sécurité dans n'importe quel endroit public. Et d'ailleurs, on va en parler du Galaxy Note. Mais
vas-y.
Non, mais c'était drôle d'avoir rentré dans les avions et dire voilà, si vous êtes détenteur d'un Galaxy Note, prévenez-nous. Je trouvais ça drôle.
Ouais. Alors c'est un peu.
C'est obligatoire en tout cas.
Oui, Laurent.
Ouais, c'est marrant que tu parles de l'avion parce que j'ai une amie qui me racontait qu'elle a fait un vol à Paris-San Francisco. Et aujourd'hui, quand tu es dans un avion, on te dit si vous perdez votre téléphone, surtout ne le cherchez pas, dites-le nous. Et encore plus en business class qu'en classe éco, parce qu'en business class, il y a des fauteuils avec de l'espace derrière, donc tu peux perdre.
Ils sont électriques.
Oui, ils sont totalement électriques, ils s'allongent. Et donc, en fait, elle, pendant le vol,
c'est ce qu'on m'a dit, moi,
la personne avait fait tomber son téléphone. Du coup, elle a redressé son fauteuil pour le trouver. Le fauteuil, en revenant, c'est une force mécanique, parce que c'est quelque chose qui arrive à soulever un corps.
Hein. Oui,
a éclaté le téléphone, percé la batterie. Alors, ceux qui n'ont jamais vu une batterie lithium-ion prendre feu, regardez sur Internet, les gens qui mettent un coup de couteau, c'est une flamme, c'est le truc à pas faire. faire, quoi. Ouais. C'est le jeu, l'amusement à pas faire pour les gamins, quoi.
Et l'eau fait qu'empirer les choses.
Ouais. Et donc, en fait, le fauteuil a explosé le téléphone et le téléphone a pris feu. Elle m'a dit, ça fait son petit effet dans l'avion.
Ouais. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé, et c'est la principale mésaventure qui est arrivée au Galaxy Note. C'était un peu injuste, hein, le fait de retirer tous ces modèles en son temps de Samsung, parce qu'effectivement, c'est ce qui est arrivé à un utilisateur. Il avait fait tomber son téléphone dans son siège premium et ça l'a coupé carrément en deux. Et effectivement, il y a une réaction en chaîne, mais ça aurait été n'importe quel autre téléphone. Je pense que ça aurait fait la même chose. Ce n'était pas forcément une question qui était prévue, Sylvain, mais du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec une automobile si un problème de cet ordre arrive? J'imagine qu'il faut former spécialement les secours pour cela. On arrive à un incendie sur une voiture électrique, il ne faut pas avoir les mêmes réflexes que d'ordinaire.
Tout à fait, mais je dirais que c'est de manière générale, comme toute nouvelle technologie dans une filière industrielle, s'accompagne aussi de formation de pour cette technologie. Notamment, on parle de véhicules électriques, dans les garages aujourd'hui, les professionnels ont été formés à ces nouvelles technologies. On est sur des technologies à des hautes tensions. Là, on ne parle plus de quelques volts. On est sur du 400 volts. Et sur la nouvelle Porsche, la première à avoir une architecture 800 volts.
800 volts pour une voiture, c'est dingue.
Donc là ça nécessite aussi d'être habilité électrique. Donc il y a toute une formation et un accompagnement de la filière pour maîtriser ces nouvelles technologies.
Et au-delà, ce qui explique, pour éviter évidemment des accidents et ces risques d'incendie, que les constructeurs privilégient les planchers pour installer les cellules électriques, puisque généralement c'est
et tout le packaging hermétique pour éviter ces cellules.
En cas de choc d'être trop déformé.
Une isolation entre les cellules.
Quid à présent des batteries demain? Comment améliorer leur rendement? Quelles sont les technologies du futur? Nous allons tenter d'y répondre. La batterie ou les batteries du futur, avant de parler de nouvelles générations de batteries avec toi Sylvain, il y a d'énormes déjà progrès à attendre, tu me disais en préparant cette émission, des outils logiciels de gestion de batterie, tu en as parlé en préambule, ce qu'on appelle le BMS, le Battery Management System. Pourquoi? Parce que tu me disais, de manière générale, c'est vraiment, il y a eu très peu de recherches en matière d'optimisation de charge de la batterie et des logiciels qui permettent de le faire.
On pourrait considérer aujourd'hui que l'ensemble des batteries, donc c'est des milliards de produits sur la planète, ne sont pas optimisés d'un point de vue gestion. Parce que le BMS, en fait, prend des informations qui sont essentiellement des informations liées à ce qu'il est capable de mesurer, c'est-à-dire la tension, le courant, la température, et que ça ne correspond pas forcément à un fonctionnement au niveau moléculaire ou au niveau électrochimique de la batterie. Donc on a une illustration peut-être qui viendra sur ce sujet-là, c'est que aujourd'hui quand vous avez une batterie, il y a par nature et par fonctionnement des limites dans l'utilisation de la batterie. Ce qu'on voit sur ce slide-là, c'est que si on regarde cette part de la batterie qui n'est pas utilisée parce que le BMS n'est pas capable, tout en ayant les sécurités qui s'imposent pour éviter et pour avoir un vrai fonctionnement et éviter l'emballement, par exemple, c'est pratiquement sur les 10 ans qui viennent une perte de 60 milliards d'euros si on prend le coût du mégawattheure ou du kilowattheure.
Ouais, c'est considérable. Et comment tu peux expliquer que les constructeurs n'aient pas réalisé ou n'aient pas voulu améliorer le rendement de ces outils de gestion et n'aient pas plus investi dans ce domaine? Batterie ou constructeur de téléphone.
Sur le sujet des téléphones, parce qu'ils sont plus en avance que le véhicule électrique, quand on regarde la bill of materials d'un smartphone ou sur le dernier Pro, on doit être à 7-10 dollars le coût de la batterie par rapport à 400-500 dollars.
C'est
négligeable. La problématique d'un fabricant de téléphone, c'est plus la place que le prix, entre guillemets. La gestion n'est pas forcément, l'optimisation de la gestion n'est pas forcément une problématique.
Leur préoccupation première, mais elle va le devenir.
Elle va le devenir. Ouais. Et pour le véhicule électrique, la valeur, c'est un grand challenge pour les fabricants de véhicules. Puisque
c'est des kilomètres en plus.
C'est 30% d'un véhicule, la valeur. C'est-à-dire que tous les grands constructeurs, enfin certains même, sont en train d'investir dans ces technologies-là, puisque leur composant avant était un moteur thermique et il fabriquait le moteur. Aujourd'hui, on peut considérer que c'est plus le moteur électrique qui fait la valeur, c'est la batterie. Donc, on en reparlera tout à l'heure sur les investissements faramineux qui sont faits aujourd'hui par des acteurs comme Volkswagen, par exemple.
Oui, Stéphane.
Il y avait juste deux choses. La première, on voit un progrès quand même significatif dans la gestion des batteries, déjà en passif. C'est-à-dire que quand, admettons qu'on laisse éteint, par exemple, j'ai un iPad Pro, le premier iPad Pro, que je laissais éteint et il se vidait, alors qu'il était éteint et il se vidait et je ne pouvais pas le rallumer. Ça, on voit que ça a progressé et qu'aujourd'hui, ça n'arrive, en tout cas, à ma sens, presque plus avec les nouveaux appareils. Le deuxième, alors c'est juste pour revenir sur l'histoire des voitures, et ouais. Je vois que sur le progrès, il me semble que la stratégie initiale d'Elon Musk,
le patron de Tesla,
je me trompe, à part de vendre des voitures et partir de zéro et produire un nombre de voitures énorme, c'était au départ de payer la R&D. La première coûtait je ne sais plus combien, la deuxième un peu plus cher, la troisième un peu moins cher, et qu'à chaque fois ça payait cette R&D pour miniaturiser et renforcer encore la longévité des batteries pour qu'à la fin la R&D serve et que ça rentre dans tous ces appareils-là que nous avons. Et là, si c'était le cas, la vraie stratégie de Tesla, ce serait très intéressant. Et il me semble que peut-être l'avenir sera que tous les téléphones et smartphones seront équipés de batteries Tesla.
Mmh. Oui, en clair, on va avoir un énorme bénéfice, si je comprends bien Stéphane, et tu peux confirmer Sylvain ou Laurent ici en plateau, de toutes les recherches qui sont faites aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle souvent d'automobiles et d'automobiles électriques, de voitures rechargeables, et pas seulement de smartphones, parce que toutes les recherches qui sont faites pour l'automobile vont bénéficier aux ordinateurs, aux tablettes et aux téléphones.
Oui, mais même avant de parler de recherche, moi je parlais d'industrialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, cette technologie qui est une...
On va y revenir.
Est un des pieds, d'un pilier de la révolution de l'énergie, passe dans cette phase d'industrialisation.
Au-delà, Laurent, on assiste à un choc culturel. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on avait des électrochimistes qui concevaient des batteries, et aujourd'hui, il faut aller bien au-delà pour un système d'optimisation. Il faut avoir des compétences en matière d'intelligence artificielle et d'électronique, ce qui peut expliquer aussi qu'il n'y ait pas eu ce retard en matière d'outils de gestion et d'optimisation de la consommation de sa batterie.
Oui, tout à fait. Après, on citait Tesla tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on regarde les ABAC et les métriques de Tesla, Tesla reste très en avance sur ses concurrents. Donc on attend tous avec beaucoup d'impatience Volkswagen, parce qu'ils vont devenir...
On en parlait tout à l'heure.
Ouais, ils vont devenir de fait le premier constructeur électrique mondial. Mais pour l'instant, même si on regarde le cas de la Porsche, l'énergie retirée de la batterie, de la distance effectuée, la puissance rendue disponible, Tesla reste en avance. Aujourd'hui, le problème de la batterie des véhicules automobiles, c'est qu'ils reposent tous sur le même élément, c'est-à-dire c'est un petit élément qui s'appelle le fameux 18650. Ça doit être 6,5 cm et le diamètre de...
Un
8, je pense que c'est pour ça que c'est 18650. Et donc, en fait, tout le monde se base là-dessus. Alors, de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est Panasonic qui fournissait les éléments de Tesla. Même si aujourd'hui, il y a la fameuse Gigafactory, on en reparle tout à l'heure. Mais il y a ce travail qui est derrière. Donc, je sais que Tesla, c'est officiel, ils nous ont dit qu'ils voulaient travailler sur la batterie et sortir de ce carcan du 18650. Mais aujourd'hui, c'est
la grosse batterie qu'il y a qui prend tout le plancher de la voiture.
En fait c'est
une association de plein de petites piles.
Plein de petites cellules.
Je crois que c'est 44 000 cellules, je sais en tête.
C'est voulu aussi parce que si on perd une pile, ça n'a pas une incidence particulière.
Non, après, ça dépend aussi du maillage parce que tu peux avoir plus de puissance ou plus de voltage et tu ne tires pas la même chose.
C'est une manière aussi de sécuriser la batterie en cas de...
Ouais, c'est-à-dire que s'il y a un bout de la batterie qui meurt, parce qu'il y a un élément qui meurt, tu ne perds pas l'intégralité de la puissance de la batterie si tout était en série.
Sylvain.
Oui, je pense qu'il y a deux éléments en parallèle. Il y a à la fois la notion d'industrialisation, où effectivement on est passé d'un coût du kilowattheure qui était en 2015 ou 2014 de l'ordre de 700 euros le kilowattheure à un coût de 150-180 et on sera en 2025 à 100 euros. Et ça, c'est vraiment la notion d'industrialisation, de gigafactory, un grand nombre d'acteurs qui investissent. Et pour le coup, quand on rentre dans ce phénomène d'industrialisation, il y a des gains de productivité qui sont trouvés de façon énorme. Et on voit sur l'illustration là l'ensemble des acteurs qui vont investir un certain nombre de gigafactories en Europe pour les besoins du marché européen. Alors, il n'y a pas que des acteurs européens, parce qu'il y a des acteurs asiatiques qui vont venir s'implanter aussi. Mais c'est une vraie première démarche. Et puis, il y a la deuxième démarche qui est ce dont on parlait, c'est-à-dire de nouvelles façons de gérer et d'optimiser une batterie avec de nouvelles technologies de capteurs et d'intelligence artificielle, en fait, hein, qui vont être plus fins. Et au lieu d'exploiter la batterie dans un range qui est plutôt de 0 à 50, de 20 à 50%, donc on a une partie interdite.
C'est-à-dire qu'on a une interdite. Zone de sécurité, hein, de par la difficulté à gérer finement la recharge de la batterie. Comme on n'arrive pas à maîtriser, on prend des précautions pour éviter qu'elle surchauffe ou qu'elle s'emballe. En gros, il reste encore 20% de puissance qu'on n'utilise pas.
Vous pouvez prendre aujourd'hui les technologies de batterie existantes, qu'elles soient dans un smartphone ou dans un véhicule électrique. Vous prenez cette technologie qui permet de vraiment être au niveau de l'aspect moléculaire de ce qui se passe dans la batterie et vous gagnez 20% uniquement par une partie logicielle.
Ouais. Donc on devrait gagner sans changer, sans révolution de technologique, hein, sans schisme important, arriver à gagner jusqu'à 15 à 20% de batterie avec simplement une optimisation du logiciel, ce qui veut dire que la durée de vie sera plus longue et qu'on pourrait recycler ces batteries plus facilement.
Exactement, et c'est un autre élément qui sera essentiel dans ce qu'on appelle la second life, donc la deuxième vie des batteries, parce que si on sait l'optimiser, si on sait auditer l'état de santé, ça s'appelle le SEH, l'état de santé de la batterie, on sera trié, entre guillemets, et affecté à d'autres applications, ces batteries-là.
Ouais. Alors, tu parlais de
typiquement, oui, ce point-là est intéressant, hein, parce qu'aujourd'hui, on a besoin, dans un véhicule, de... En fait, c'est la quantité de puissance disponible. Hein. C'est-à-dire, grosso modo, tu as une tension constante. On parlait tout à l'heure des 400 volts, 800 volts pour le cas de la Taycan. C'est combien d'ampères tu vas être capable de sortir. Et en fait, tu pourrais très bien imaginer qu'en fin de vie pour l'automobile, ces batteries soient recyclées pour être utilisées sur des choses non mobiles. Typiquement, le stockage de ton énergie solaire.
Ouais, c'est ce que propose le stockage stationnaire.
Oui. Ouais, stationnaire, tu vois. Tu tombes, à la limite...
Tesla avec son wall, c'est ça?
Oui, mais pour l'instant, on reste sur des batteries normales. Ouais. Là, ce qui serait intéressant, ça serait que ce soit des batteries qui aient déjà fait quelques millions de kilomètres.
C'est l'ambition au final. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on va recycler les batteries de Tesla, ce qui ne sont plus suffisamment puissantes pour alimenter une voiture ou qui commencent à être un peu limite à 70%, par exemple, sont largement puissantes pour alimenter une petite maison.
Et surtout dans ces applications-là, évidemment, ce sont des applications qui intéressent les électriques, vous l'imaginez bien. Ouais. Ces solutions qui permettent de développer de nouveaux concepts d'usage de l'énergie. On est vraiment sur une vraie révolution, là, pour le coup. On était un peu comme l'informatique il y a très très longtemps, avec un serveur central et puis on avait une console qui nous permettait d'accéder au logiciel du serveur central. L'énergie, c'est de la même manière. On était dans un Jurassic Park de l'énergie, avec une centralisation et des productions, quelle que soit la nature de la centrale, qu'elle soit nucléaire, à charbon ou autre. Et puis ensuite, un réseau de transport, de distribution, et on était à la fin du tuyau utilisateur. On va être dans un domaine où on va, ce qu'on appelle les 4D, on va décentraliser l'énergie, elle va être décarbonée, elle va être digitalisée, elle va être démocratisée. Donc on va tous être producteurs de cette énergie avec la brique essentielle qu'est le stockage.
Ouais, alors là, on voit vraiment l'importance de l'émergence, d'abord de la recherche en matière des développements en matière de batterie, de l'émergence de la voiture électrique et de sa généralisation. Au-delà de l'aspect environnement pur, c'est qu'elle va permettre de décentraliser, c'est-à-dire la production, que chacun d'entre nous, avec des murs qui embarqueront des batteries recyclées, mais on reviendra sur le recyclage dans un instant, de devenir soi-même un producteur de batteries. Il y a un célèbre constructeur automobile qui fait beaucoup de voitures électriques, pour ne pas le nommer, qui a l'habitude de dire, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, Sylvain, qu'en ce moment, il y a deux centrales nucléaires qui roulent sur les routes grâce à ce constructeur.
À l'horizon 2024, oui. Mais
à l'horizon 2024.
Il y a déjà...
Voilà, ça me donne l'idée de la capacité de production qu'on aurait déjà. Si on recyclait ces batteries, on aurait deux centrales nucléaires, en gros.
Tout à fait.
Sans aller jusque-là, tu pourrais te poser d'autres questions. Hein. Ta batterie aujourd'hui, ta batterie de voiture... Ta voiture, c'est une batterie qui pourrait se reverser dans le grid.
Bien sûr, c'est l'idée aussi.
C'est-à-dire que tu arrives le soir à la maison, tu sais qu'on a besoin d'énergie entre 17h et 21h. Ta voiture se déchargerait pendant ce moment-là sur ce qu'on appelle le grid, donc le réseau électrique. Et derrière, elle rechargerait en fin de nuit pour qu'elle soit chargée le matin. À un moment donné, on n'a pas besoin d'énergie.
Ce qui est intéressant sur ces sujets-là, c'est que Il faut, pour développer ces nouveaux business models, un certain nombre de conditions, ouais, qui permettent tout ça. Et on est vraiment dans cette phase-là. On a à la fois donc ces technologies de véhicules. On s'aperçoit que les batteries ont des durées de vie sans doute bien supérieures à ce qu'on imaginait. En tout cas, derrière l'usage du véhicule, comme on a en plus des cycles très faibles en stationnaire, elles pourront avoir une deuxième vie de 10 ans aussi sûrement dans ces applications-là. Et puis, l'outil ou le composant qui était un composant passif jusqu'à aujourd'hui, notamment la borne de recharge véhicule électrique, qui est aussi un de nos activités, va devenir un élément intelligent qui va contribuer au smart charging. Et on a un protocole et il y a un standard qui est en train d'apparaître, qui permet d'avoir une liaison bidirectionnelle, une communication bidirectionnelle entre la borne et la maison.
La voiture.
Et la voiture, qui va permettre justement d'établir cette connexion et de les charger.
Dans le sens que l'on veut. De la voiture est pleine et elle alimente la maison et vice-versa.
C'est intéressant, c'est que les mentalités évoluent. Tu sais, pour le cas pour donc, le fondateur d'Oscaro qui a lancé Oscaro Power, ouais, quand tu poses la question donc, qui permet d'installer des panneaux solaires pour des particuliers en do-it-yourself, quand tu poses la question aux gens pourquoi ils ont envie d'installer un panneau, c'est juste qu'ils se disent on a cette énergie qui est disponible, on a envie d'être notre propre producteur. Donc du coup, finalement, ils deviennent...
C'est vrai, un vrai choc culturel.
Ouais, c'est un choc.
Alors avant, on a bien compris que l'arrivée de nouvelles générations et nouvelles technologies de batteries, il y a d'énormes progrès qui doivent être faits pour la gestion de cette batterie, mieux gérer finement la consommation, etc. Donc on devrait gagner jusqu'à 20%. Et puis tu l'as dit à l'instant, une nécessité de faire un énorme effort industriel pour réduire le coût de production de ces batteries lithium-ion, parce qu'aujourd'hui, dans le cas d'une automobile, et c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, développement de cette industrie, ça pèse jusqu'à 30% du prix de la voiture, hein, c'est bien ça.
Exactement. Et du coup, la compétence, je dirais, d'industrialisation, qui est d'ailleurs une compétence européenne, va permettre aussi de réduire les coûts. Quand on voit l'exemple de la première gigafactory
de Tesla,
de Northvolt, qui est indépendante, qui est un acteur privé qui a été accompagné par un outil dans lequel nous sommes fondateurs, qui est un accélérateur de start-up dédié à l'énergie en Europe, qui s'appelle Inno Energy.
Alors Novolt, ça a été lancé par un ancien de Tesla.
C'est un ancien Peter Carlson, hein, ouais, qui voulait construire une gigafactory européenne. Il voulait s'installer dans un pays qui lui garantissait d'avoir une empreinte carbone d'énergie liée à l'énergie renouvelable. Un pays qui produit à 100% d'énergie renouvelable et d'électricité.
Donc il s'est installé.
Il s'est installé en Suède.
Bon, il est suédois.
Ça a dû l'arranger aussi. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est que on ne parle pas là forcément de rupture technologique sur la technologie de la batterie. On parle bien là d'un concept basé sur le business, en considérant que pour lui, pour avoir une usine qui soit compétitive, il faut faire une usine 32 gigawattheure. L'usine a été construite pour cela. Et puis, il y a quelques secret sauce, comme on dit, sur la façon dont il a gagné quelques millisecondes sur la fabrication de chaque pile, chaque cellule, qui lui fait gagner une compétitivité sur le prix.
Voilà. Donc là, il y a une énorme, vous aurez bien compris, il y a un énorme travail qui est fait pour optimiser la batterie, il y a un énorme travail qui est fait pour réduire le coût de production et accélérer le process de production, que ce soit Northvolt en Europe, et on est plutôt content que ça se bouge en Europe, et bien sûr l'épouvantail du marché qui est Tesla avec ses gigafactories qui investit énormément d'argent autour de ces problématiques-là. Et on a appris cette semaine que Tesla avait choisi l'Allemagne pour installer sa première gigafactory européenne. Et voilà, vous l'aurez bien compris que l'enjeu, c'est de produire plus et plus vite des batteries, à moindre coût, plutôt que d'essayer de les rendre plus performantes. Mais il y a quand même quelques pistes pour améliorer le rendement de nos batteries, quand même. Il y a quelques technos qui émergent. On a une question bien précise à ce sujet, une question de Maz. Maz, bonjour, les batteries au graphène sont-elles sur le point de voir le jour? Cette techno est-elle si révolutionnaire que cela? Je vous souhaite un très bon jour férié, parce qu'on a publié la question le 11 novembre. Voilà. Sylvain, les batteries au graphène, en quelques mots.
Ah, c'est une technologie, notamment le graphène, qui est une technologie pas si récente que ça d'ailleurs, qui va permettre effectivement de gagner potentiellement en gain, notamment sur les temps de recharge, comme d'autres technologies qui apparaissent. Mais la problématique en fait de ces technologies, c'est ce fameux passage à l'échelle, parce qu'on arrive toujours à faire des démonstrations de nouvelles technologies, de ruptures technologiques. mais après il s'agit de passer à la phase d'industrialisation. Et il y a toujours, en termes de timing, le gain par rapport à une technologie existante. Donc je pense qu'on a aujourd'hui une situation où les batteries lithium passent vraiment dans une phase d'industrialisation, et on va avoir des batteries lithium pendant un certain nombre d'années, que la courbe de décroissance des coûts qui va s'accélérer et qui va permettre d'ailleurs de développer de nouvelles activités, notamment les énergies, les microgrids dont on a parlé, va permettre de réduire. Et puis à un moment donné, dans 15 ans, une autre technologie va arriver et va permettre de réduire encore les coûts.
Ouais. Et on a beaucoup parlé aussi cette année de la batterie au sodium ion. En plus, c'est une start-up française qui serait à l'origine de cela, hein, des anciens du CEA, je crois, ou du CNRS. Tiamat Energy, hein, qui serait derrière ça. Qui permettrait d'avoir une autonomie bien plus importante et un temps de recharge beaucoup plus rapide. Là aussi, on attend la phase industrielle. Hein.
Tout à fait. Et avec l'intérêt de cette technologie qui permet d'utiliser des matériaux qui sont peut-être plus facilement accessibles que les matériaux qu'on utilise, mais on en parlera sûrement.
Mais on en parle tout de suite, parce que c'est vrai que dans nos esprits de béotiens de la batterie... On entend parler depuis le début de cette émission de batterie au lithium, et on lit, on entend, on est interpellé par beaucoup, à juste titre, de défenseurs de l'environnement en disant, mais attendez, pourquoi investir autant dans les batteries au lithium alors qu'elles sont composées de terres, entre guillemets, rares? Là encore, on a beaucoup écrit sur le sujet. Est-ce qu'il y a vraiment un risque de pénurie, comme le terme terre rare pourrait le laisser penser? On en est où de la production? On a un petit schéma pour ça.
Tout à fait. Alors, déjà, quelques sémantiques, le lithium n'est pas une terre rare. Donc les terres rares sont en fait un groupement de 17 éléments qu'on a tous appris sur un beau tableau de Mendeleïev.
Ouais. Il y a quelques années, on le voit, le tableau de Mendeleïev.
Ils ne sont pas rares, en fait. Ouais. Les gisements sont importants. Alors pourquoi terre? C'est parce que, en fait, ce sont des matériaux qui sont extraits de minerais, donc... Au XVIIIe siècle, on les appelait terres, et rares parce que du coup, il y avait une difficulté à faire de l'extraction, donc il faut investir dans l'extraction. Mais ce ne sont pas des matériaux rares, entre guillemets, et puis surtout, ils ne sont pas utilisés dans les batteries. Donc associer le véhicule électrique aux terres rares, c'est une aberration, je dirais, puisqu'ils ne sont plus utilisés.
Donc il n'y a plus de débat concernant ce sujet-là, en disant mais arrêtez d'investir dans les voitures électriques, puisque les terres rares, c'est un vrai problème dans les pays en voie de développement. On l'a vu sur le schéma, si on peut le revoir brièvement tout à l'heure, qu'il y avait quand même des pays où on trouvait des matières premières pour les batteries. On voit la Chine en rouge, qui est le principal pourvoyeur de terres rares.
Alors, la Chine en rouge sur ce graphe, c'est intéressant, c'est qu'en fait, un des éléments des terres rares qui est utilisé, le néodyme, par exemple, permet de faire des aimants permanents. Aujourd'hui, c'est assez intéressant. Toutes ces technologies de terres rares sont utilisées dans toute l'industrie. On pourrait mettre en élément le véhicule thermique. On utilise des terres rares dans l'époque catalytique. Les aimants permanents permettent de faire des moteurs électriques. Donc, quand vous utilisez votre rétroviseur électrique, votre lève-vitre électrique, vous avez un aimant permanent néodyme. Donc, ce n'est pas le véhicule électrique, c'est l'ensemble de l'industrie, y compris le véhicule thermique, qui utilise ces terres rares. Les matériaux qui sont utilisés dans les batteries aujourd'hui, alors on avait d'anciennes générations, je crois que les Toyota Prius au départ utilisaient du cadmium, donc on avait des terres rares à ce moment-là, mais il faut faire attention à ces éléments où les technologies évoluent, et aujourd'hui il n'y a plus de terres rares dans les batteries, on va retrouver par contre des métaux, dits rares, mais des métaux de type lithium et cobalt. Mais ils ne sont pas dans le classement des terres rares.
Et le cobalt, qui lui est vraiment rare.
Le lithium, il y a beaucoup de pays, notamment il y a des saumures dans des grands déserts en Amérique du Sud, en Chili, en Argentine, et en Bolivie, c'est 40% des réserves. Quand on regarde tous les experts s'accordent à ce que l'ensemble des réserves du lithium, c'est de l'ordre de 11 millions de tonnes. Aujourd'hui, on consomme 30 000 tonnes. 250 000 véhicules électriques en Europe, multiplié par 20, 5 millions de véhicules électriques, c'est à peu près ce qui sera en Europe, ça fait 600 000 tonnes. On est encore très très loin. Le lithium n'est pas forcément le sujet. Le cobalt, par contre, effectivement,
est un
vrai sujet dans le sens où 50% de la production est dans un pays qui est la République démocratique du Congo. Qui porte peut-être mal son nom, et qui est un élément de base dans un des éléments de la batterie qui est la cathode. Mais là, c'est intéressant aussi. On parlait d'industrialisation et de gains de productivité. un des responsables du programme VE chez Renault expliquait que la première génération de Zoé avait 30% de cobalt dans sa cathode. La génération qui sort aujourd'hui a plus que 20%. Et sur leurs étagères, ils ont déjà des solutions à 10%. Il y a déjà même des batteries lithium-ion sans cobalt qui existent, qui n'ont pas encore les performances. Donc, et puis d'autres pays investissent, l'Australie, le Brésil, la Roumanie vont avoir d'autres mines. Donc entre la réduction de la quantité de cobalt dans les électrodes, l'ouverture de nouvelles mines ou d'extraction, et puis aussi le cobalt recyclé, c'est un faux débat.
Un faux débat, encore une légende urbaine. Il y en a beaucoup autour des batteries, décidément, durant cette émission.
Qui profite le crime, hein, toujours.
Ouais. Dernière question, toujours autour de ces préoccupations plus environnementales et sont légitimes. Question de Sébastien. Peut-on espérer des avancées en ce qui concerne le recyclage des batteries? C'est vrai que ça va de pair, même si les matériaux ne sont pas si rares que ça, il y a un gros souci, un gros impact environnemental autour des batteries. On en est où concrètement? Tu as donné quelques éléments de réponse tout à l'heure avec l'exemple de Tesla et ses murs qui peuvent être installés dans les maisons en termes de batteries. Il y a encore beaucoup à faire de ce côté-là.
Il y a encore beaucoup à faire. Et, par contre, effectivement, quand on pense recyclage, on pense uniquement à la réutilisation des matériaux c'est déjà fait. Il est clair qu'il y a néanmoins un problème d'adéquation puisqu'il y a énormément de chimie très différente. Donc les sociétés qui vont investir dans des usines de recyclage vont investir grandement lorsqu'elles auront une idée claire de la chimie qui va se dégager, parce que c'est quand même complexe.
Il y a plusieurs... c'est ça qui rend compliqué le recyclage aujourd'hui. Recyclage. Il y a plusieurs chimies, plusieurs types de batteries. Donc voilà, il y a plusieurs techniques de recyclage.
Quand
on aura mieux industrialisé et standardisé, on arrivera mieux à recycler, c'est ça l'idée.
Et par contre, avant le recyclage, il y a la réutilisation. Mmh.
Donc le Powerwall de chez Tesla.
Après
7 à 9 ans d'utilisation d'une batterie dans une voiture, on pourra la retrouver comme pour alimenter une maison, par exemple.
Tout à fait.
Et si on améliore le BMS, que disait tout à l'heure, donc le système de management de la batterie, le logiciel, on pourrait encore dégager des boîtes supplémentaires.
Tout à fait. C'est intéressant parce que quand on regarde et qu'on analyse l'empreinte carbone d'un véhicule électrique est souvent aussi une critique qui est faite. Je crois qu'un rapport de l'ADEME là, très récent qui est sorti, qui explique que vous avez sur un véhicule électrique un équivalent de 9 tonnes de CO2. Dans ces 9 tonnes, pour 150 000 km. Dans ces 9 tonnes, vous avez à peu près 6,5 tonnes liées à la fabrication du véhicule, puisque dans l'usage, vous n'émettez très, très peu de CO2. Si vous prenez un véhicule thermique, sa fabrication, c'est 3,5 tonnes. Donc c'est mieux. Mmh. Mais à l'usage, c'est 18 tonnes. Donc vous comparez 9 tonnes à 22 tonnes. Donc déjà, dans la situation actuelle, si en plus vous rajoutez dans cette équation cette notion de seconde vie, de réutilisation d'une batterie qui avait été prévue pour 10 ans dans un véhicule et qui va être réutilisée, évidemment que la notion de développement durable est plus vertueuse avec un véhicule électrique.
Ouais. À propos d'automobile, on a beaucoup, il sera la dernière question de cette émission, on en arrive au bout, d'Apple dans l'automobile, toi qui es un observateur attentif du marché électrique, de la voiture électrique et d'Apple, puisque tu es plutôt bien équipé d'après ce que je vois, quel est ton sentiment de cet investissement depuis des années maintenant autour du projet d'Apple dans l'automobile?
Titan.
Le projet Titan.
Je ne sais pas quelle est vraiment la stratégie d'Apple sur ce sujet-là. Est-ce que Apple viendra avec une automobile électrique? J'attendrai plutôt d'une société comme Apple qui a été en avant-garde dans des nouveaux façons d'utiliser ces technologies du numérique, ces designs très 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 à la mode, peut-être d'avoir une vraie disruption sur la mobilité du futur. Qui ne sera peut-être pas du tout l'automobile quand on le voit, où on reste quand même sur des véhicules électriques qui restent à 4 roues, qui sont relativement standard. Donc peut-être que Apple nous apportera une vraie disruption dans cette mobilité électrique.
Déjà, on va attendre le MacBook Pro 16 pouces, après on en rediscute. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec Stéphane. Et tu as droit qu'à un seul coup de cœur, je suis désolé Stéphane.
Alors Olivier, cette semaine, comme je n'étais pas là cette dernière semaine, je vous donne mon coup de cœur, qui est le film Hors Normes de Eric Toledano et Olivier Nakache. Ouais. C'est une pure petite merveille d'humanité et ça nous éloigne bien de nos problèmes quotidiens, de nos batteries. Et je vous encourage vraiment à aller le voir. C'est un super film. Bon. Et Vincent Cassel et Reda Kateb sont exceptionnels dedans.
Voilà, on essaiera de regarder ça cette semaine. Merci Stéphane. Ton côté, Laurent, ton coup de cœur cette semaine?
Ah, moi, je suis resté très basique, hein, sur cette semaine.
Ouais.
C'est un chargeur OK, donc de base, hein, qu'on trouve sur...
OK, c'est la marque, hein,
c'est
A-U-K-E-Y.
C'est la marque, hein. A-U-K-E-Y. Et en fait, j'en ai fait... c'est juste un chargeur qui a 6 ou 8 prises, et j'ai mis 6 ou 8 fils derrière, donc un pour mon Apple Watch, un pour mes...
Tu charges tout, presque.
Je charge tout, donc voilà. Donc en fait, j'ai une espèce de guirlande, et c'est pratique, je l'embarque partout, quoi.
C'est pas une chinoiserie, vous pouvez y aller
pas une chinoiserie.
Tranquille. Sylvain, de ton côté, ton coup de cœur?
Ah, moi, mon coup de cœur, c'est dans mon métier, je suis souvent en contact avec... je crée des startups, j'investis dans les startups, ou je participe à des startups, et je vais parler d'une startup française qui a été d'ailleurs qui a reçu un award pour le prochain CES Las Vegas, qui s'appelle Up to You, et qui va présenter en avant-première une nouvelle technologie intégrée dans un smartphone, qui est un smartphone haptique. Donc avec une technologie qui permet d'avoir la sensation du toucher, un retour d'effort qui va apporter en termes d'interface homme-machine une vraie disruption.
Froide de nos smartphones. Voilà. Hein, tout ce qui monte sur nos vitres aujourd'hui.
Exactement.
Donc quand on va toucher, on va avoir un petit retour.
Vous avez même, si vous passez sur un site, vous pouvez faire une différence entre un pull et... Donc la nature du pull, vous allez pouvoir aussi, parce qu'il y a beaucoup d'applications dans l'automobile, pour pouvoir régler sans en ayant les yeux toujours sur la route et régler le volume par exemple en ayant le retour haptique. Et en plus c'est français, monsieur, c'est même mieux que français puisque c'est grenoblois. Hein.
Bien oui, n'en parlons pas, mais on devine où tu résides tout au long de l'année. Merci Sylvain. De mon côté, regardez, c'est beaucoup plus terre à terre. Moi, j'adore les produits. C'est la dernière Fire TV Stick 4K, hein, le dernier modèle de chez Amazon, hein, qui arrive en France, donc une version 4K. C'est toujours un stick HDMI, un peu comme la Chromecast de Google, sauf que celle-ci propose un vrai écran d'accueil à l'instar de l'Apple TV qui affiche des apps. Il fournit des recommandations pour les contenus. Alors, les contenus sont très larges. Il y a bien sûr Prime Video de Google et Netflix et surtout désormais Apple TV. Le service de streaming Apple TV plus d'Apple. Et le tout est en 4K et ça marche vachement bien. La nouvelle version est équipée en plus d'une télécommande vocale compatible Alexa pour contrôler le contenu. Vous pouvez même contrôler le volume ou encore l'allumer ou l'éteindre à distance. Et puis accessoirement, elle est beaucoup moins chère que l'Apple TV 4K seulement. En ce moment, hein, seulement 44,99€. Profitez-en, voilà. Tout simplement, c'est jusqu'à 4 fois moins cher, voire 5 fois moins cher qu'une Apple TV. Pour une interface qui est vraiment sympa, j'ai bien aimé. Voilà, c'est la fin de ce 352e épisode dans Fais le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci, monsieur, d'être venu jusqu'à ce studio.
Merci à vous.
Merci, Stéphane, ça s'est bien passé. Tu reviens la semaine prochaine pour parler d'Apple TV Plus ?
Oui, avec grand plaisir. Voilà.
On parlera la semaine prochaine, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Apple TV+. On va essayer de trouver un expert aussi talentueux que Sylvain, mais pour parler de séries et de streaming, on a quelques idées. Pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et sur la petite cloche pour être prévenu qu'une émission est en ligne. Merci encore infiniment pour votre fidélité. Et à la semaine prochaine. Au revoir.